le concept partenariat public-privé renferme en fait beaucoup de sous-entendus en fait. L'ONEP par exemple, qui est un organisme très fort, public très fort, historique, a relativement réussi la politique de l'ombre, comme je l'ai démontré tout à l'heure. Donc là vous avez un exemple d'un opérateur public qui a réussi. Donc, et puis vous avez également d'autres exemples d'opérateurs publics qui sont bureaucratiques, et même l'ONEP, il y a encore bien sûr beaucoup de choses à améliorer, je ne dis pas que l'ONEP est parfaite, mais quand même, c'est pas anodin. Si on regarde uniquement au niveau de la région Méditerranée Sud, au niveau du Maghreb par exemple, au niveau un peu de l'Afrique de l'Ouest francophone, derrière les rares réussites dans la région, vous avez des opérateurs très forts. L'ONEA par exemple, Burkina Faso, l'ONAS, qui est l'Office d'assainissement de la Tunisie, et la SONED aussi, qui est un office national public pour le potable en Tunisie. Je ne vois pas d'autres exemples. Donc, avec cette ampleur-là, bien sûr, il y a quelques cas, mais derrière, derrière les réussites, les grandes réussites dans la région, il y a quand même des organismes et une gestion publique relativement performante. Je suis pour la gestion publique, mais performante, bien entendu, pas n'importe quelle gestion publique. Maintenant, si on entend, donc là on parle un petit peu des partenariats publics-privés dans le domaine de la gestion. Et je pense que le public doit garder cette maîtrise de la gestion. Maintenant, l'ONEP lui-même, quand on parle de gestion publique, on délègue beaucoup de choses au privé. Donc, le partenariat existe depuis la naissance de l'ONEP. Tous les travaux sont sous-traités au privé. Donc ça fait problème en fait. Les travaux constituent, je ne sais pour ne pas dire une bêtise, mais c'est peut-être 80% de l'activité du chiffre d'affaires de l'ONEP. Donc tout ça est déjà sous-traité. Depuis la naissance de l'ONEP. Donc, les travaux sont réalisés par des entreprises privées. Beaucoup de travaux de maintenance, d'exploitation sont réalisés également sous-traités par le privé. Donc, en fait, c'est un faux problème. Là, le problème qui pose, qui est d'actualité maintenant, est-ce que le privé peut prendre en charge la gestion du service? Est-ce que c'est synonyme et une gage pour améliorer le service aux usagers, aux clients souvent, le privé aime qualifier les usagers. Nous, on parle plutôt d'usagers citoyens que de préfère au terme client. Mais je pense que ça, c'est un faux problème. D'ailleurs, les études le montrent. La dernière étude de l'OCDE, qui est une étude qui date de janvier 2008, qui portait sur des études de cas, une 49 ou 50 études de cas dans la région Méditerranée Sud, a bien montré, conclu, que la gestion privée de l'eau n'a pas vraiment montré, en comparaison avec une gestion publique dans la région, dans cette région en l'occurrence, n'a pas montré de progrès significatif. Et il y a un rapport également de la Banque mondiale qui est un peu avant celui-là, qui date je crois 2005, qui aboutit pratiquement à la même conclusion, dire que la propriété ou le statut juridique en fait de l'opérateur gestionnaire, il n'y a pas de corrélation entre le statut juridique et la performance des services. Donc là, je pense qu'il faut dépasser ce débat. Et ça n'a rien d'idéologique ni de dogmatique. Au contraire, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un service performant. Il y a des pays où le service public est performant, il faut l'encourager, il faut l'appuyer. Dans d'autres, peut-être, la solution privatisation est mieux adaptée, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour nous, je pense qu'une des options qui mérite d'être étudiée dorénavant dans toutes les... parce qu'on n'a pas arrêté depuis deux décennies de miser sur la privatisation comme une solution. D'ailleurs, ça a été dit au départ comme la solution pour arriver et accéder et améliorer l'accès à l'eau potable dans cette vision des objectifs du Millénium. Ça a été dit au lancement des objectifs du Millénium pour le développement, pour l'objectif millénaire de développement, en tout cas pour l'eau et l'assainissement. Mais finalement, toutes les évaluations à mi-parcours montrent que très peu de choses ont été réalisées par privé. Il y a 1% des nouveaux branchements réalisés au monde qui sont réalisés par le privé. Le reste, 99%, reste quand même la réalisation du public. Donc il y a des limites à cette solution. D'où la promotion, il y a la promotion également. Je ne dis pas qu'il faut remplacer une par l'autre, mais en tout cas, c'est deux options qui méritent d'être étudiées en parallèle. Et il faut faire des études et dire voilà l'option la mieux adaptée, l'option également partenariat public-public. On teste cette option-là avec la Mauritanie par exemple et ça ne marcherait pas bien. Hier j'ai montré à travers mon exposé qu'il y a un partenariat avec le SIAP qui a marché très très bien entre l'ONEP et le SIAP Donc c'est entre deux organismes publics pour aider et accompagner l'ONEP à la mise en place de la société d'assainissement, qui a donné de très bons résultats. Tout le cadre maintenant qui gère l'assainissement à l'ONEP sans passer par le SIAP. Donc il y a également une option que je pense qui est d'actualité, qui est moderne, contrairement aux idées reçues. Une autre, ce que j'appelle un peu dans ces dogmes et des idées un peu reçues, il y a l'idée reçue également que les communes, en décentralisant communes, le problème va être résolu. Je pense que la décentralisation est un principe très fort, très important, mais il faut qu'il soit, qu'il accompagne un peu le développement global au niveau démocratique, au niveau économique du pays. Donc, c'est faisable dans un pays qui a connu un processus historique comme la France. On n'est pas arrivé à la décentralisation c'était un État très centralisé, comme vous le savez. La décentralisation a pris beaucoup de retard. Et finalement, quand on regarde de très près, ce n'est qu'il y a 30 ans. Je pense que la décentralisation a vraiment été mise en œuvre. Et on ne peut pas demander aux pays africains de dire, voilà, décentralisez tout. Vous allez, parce que c'est présenté comme une solution recette miracle. Si vous décentralisez, vous allez avoir tous les problèmes résolus. Or, c'est le contraire. Parce que là, on gaspille beaucoup de ressources. Le peu de ressources dont on dispose sont éparpillées. Et puis, généralement, le transfert des compétences vers les communes n'est pas accompagné par un transfert des ressources. C'est plutôt l'État qui se décharge d'un problème. Et puis, il n'y a pas, déjà, au niveau démocratique, il n'y a pas une évolution démocratique au niveau local. Vous n'avez pas toujours les élus qui sont capables de gérer les problèmes de la population localement. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Ce qui fait qu'il faut relativiser également cet aspect. Effectivement, c'est un objectif qu'il faut atteindre, mais il faut ne pas brûler les étapes et il faut que les conditions soient réunies pour qu'on puisse passer à cette étape. Donc moi, je ne suis pas très choqué quand je vois des organismes publics forts comme l'ONEP ou la SONED prendre, même si on est un peu taxé d'être très hégémonique, tout ça. Mais je pense que c'est une façon, c'est un outil très important qui permet une synergie, qui permet également aussi solidarité territoriale, parce que c'est important, parce que si on misait tout sur les communes, donc seules les communes riches, donc les grandes communes, auraient pu se permettre d'avoir un système d'eau potable, d'assainissement convenable, les autres petites communes qui n'ont pas l'effet d'échelle recul seraient en retard. Or, l'ONEP, c'est un outil de régulation, un outil d'aménagement territoire aussi, parce que les gens de Casablanca, s'ils n'appuient pas et s'ils ne contribuent pas aux efforts d'alimentation potable d'une petite commune qui est à 200 km, ben, ces gens-là vont chercher l'eau, ils vont peupler les bidonvilles aux portes de Casablanca. Donc la ville de Casablanca a intérêt également à soutenir ces gens-là. Et puis également, historiquement, les gens de Casablanca ou d'Araba ont bénéficié d'infrastructures réalisées dans le cadre du budget de l'État. Le barrage qui alimente maintenant Casablanca Tapa a été réalisé à travers un budget de l'État. Et ça, c'est tous les citoyens marocains. Donc ce n'est qu'un retour, que justice rendue à ces gens-là. Parce que l'on est dans ce système de tarification qui explique en grande partie la réussite de l'eau potable au Maroc, c'est le système tarifaire marocain. L'ONEP applique un tarif unique à l'échelle de toutes les villes dans lesquelles elle gère la distribution d'eau potable. Ce qui permet un peu cette péréquation de pouvoir financer des projets dans des petites centres dont la taille n'est pas très suffisante pour avoir un service rentable économiquement. Donc c'est une des clés qui explique un peu la réussite de cette gestion publique de l'eau au Maroc. Il y a donc cette solidarité territoriale, mais également une solidarité verticale entre les classes, parce que c'est contrairement en France, où c'est un tarif unique, c'est un tarif pour les domestiques, pour les ménages, qui augmente avec l'augmentation de la consommation. Donc c'est un peu, il y a une tranche sociale qui est très en deçà du prix de revient réel de l'eau, mais les gens qui consomment, les gros consommateurs payent pour les gens qui les moins consommateurs. Normalement, la consommation reflète un peu le niveau social des ménages. Plus vous consommez, normalement, vous avez plus de moyens de... Comme nous avons des compteurs par ménage, nous n'avons pas de compteurs chez vous par syndic d'immeubles, tout ça, l'exemple de Paris. Donc nous avons relativement un reflet plus ou moins du niveau social de ménage alimenté par le potable. Voilà en gros un petit peu le rôle que peut jouer un peu l'ONEP dans cette politique de l'eau en tant qu'opérateur public, qui permet justement de créer des synergies, de faire un peu de l'aménagement de territoire dans ce domaine.